membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un gros sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Bonsoir, il est 19h02, vous êtes sur Canu, Radio Canu, pardon, et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Au programme ce soir sur notre antenne à l'échelle locale. De quoi va-t-on vous parler ?
On va donc parler des bains-douches. On va passer un reportage sur la lutte contre la fermeture des bains-douches. Puis on va passer au national.
Et au national, on vous parlera d'un non-lieu pour un flic assassin dans l'affaire Ali Ziri. Et puis on vous parlera également d'une loi sur le travail et donc l'enterrement des 35 heures qui risque d'être formulé à l'occasion. On vous parlera ensuite de Toulouse et on vous parlera du droit au logement à Toulouse. On finira enfin par parler des expulsions programmées à Calais.
Et puis on passera à l'international avec le durcissement des frontières européennes et on parlera de France-Afrique à la sauce hollandaise. Et on terminera par l'agenda.
Le rituel agenda. Et vous avez bien fait donc de rester sur Radio Canu. N'écoutez surtout pas Nicolas Demorand sur France Inter et la propagande de François Hollande. Restez avec nous, on va décrypter les coulisses du pouvoir ce soir.
Lyon, capitale de la résistance. Lyon, capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chanterait.
Alors, on va revenir un petit peu sur la lutte contre la fermeture des bains-douches. Donc, on va tout d'abord écouter un reportage qui avait été fait par l'équipe du Canu Info en janvier. Voilà, pour expliquer un peu l'histoire de cette bain-douche.
Alors, on est à l'angle de la rue Ornano et de l'impasse Flessel. Et on est dans le premier arrondissement, le 13 janvier.
Qu'est-ce qui vient de se passer, là ?
Donc, c'était les vœux du maire, de la maire du premier. Et en principe, il y avait Gérard Collomb. Donc, on a, nous, collectif habitants pour le développement des bains-douches, on a décidé d'intervenir. Donc, avec une prise de parole et puis quelques remarque un peu acide. Voilà. Les bains-douches existent depuis un bon moment, je crois que c'est 36. Ils sont gratuits depuis 2010. On est venu faire des interviews des usagers et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens de 20 à 80 ans, des gens qui viennent pour se doucher parce qu'ils n'ont pas de sanitaire à la maison, mais aussi des gens qui viennent rencontrer leurs amis, des gens de passage. Il y a des gens qui sont au travail en déplacement. Il y a donc pas mal de situations. Voilà. Sur la fréquentation, Kepenekian vient de dire qu'il y avait une fréquentation minime. En fait, on a regardé un peu sérieusement et on est autour de 50 personnes par jour. Il faut savoir que les bains-douches sont pas ouverts tous les jours. sont fermés le mardi après-midi, par exemple, et ils sont ouverts dans des horaires qui ne permettent pas de venir se doucher le soir, par exemple, ce qui limite la fréquentation. Je suis allé moi-même prendre une douche. C'est des lieux qui sont anciens, mais qui sont tout à fait agréables, avec un accueil très charmant des agents municipaux. Voilà.
D'accord, et donc c'est des gens qui viennent fréquemment pour se doucher, c'est des gens qui vivent plutôt dans le quartier, qui sont plutôt dans...
Alors les gens avec qui on a pu parler sont plutôt effectivement du quartier, sur le plateau, beaucoup des gens qui n'ont pas de douche à la maison, hein, voilà.
Alors en quoi aujourd'hui, ce soir et à l'avenir, ils sont menacés ces douches?
Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est que y a une prévision de fermeture en mars prochain, donc c'est très très proche. Il faut savoir que c'est pas la mairie du premier qui gère les bains douches, mais le CAS, le CCAS, et que c'est évidemment la mairie centrale qui pilote.
C'est quoi CCAS ?
Le CCAS, c'est la caisse communale d'action sociale.
Et alors, ils veulent fermer les bains douches sous quel prétexte ?
Alors, les arguments, il y a trois arguments. Il y a le premier, c'est l'accessibilité. Il n'y a pas d'ascenseur et il faut monter plusieurs étages. Mais il y a une accessibilité par ascenseur dans la salle des ovalistes qui est juste à côté. Et puis le deuxième, c'est la vétusté. Alors, effectivement, ces bains, ils datent de 36, ils mériteraient d'être rénovés. Mais ils sont tout à fait accessibles actuellement. Encore une fois, je suis allé moi-même me doucher récemment et voilà, ça fonctionne. Alors il y a 9 douches. On reproche aussi un peu à la mairie de laisser petit à petit les lieux en déshérence, puisqu'actuellement il y a 23 douches dans les bains douches, mais il y a seulement 9 douches qui sont utilisées avec de l'eau chaude. Voilà. Ce qu'on sait aussi sur le public, c'est qu'il y a des gens seuls, il y a des familles, il y a très peu de femmes, parce qu'on pense que c'est, on ne sait pas bien pourquoi, mais on pense que c'est pour des raisons d'intimité. Donc là aussi, il y aurait un aménagement à faire. Voilà. Il faut parler un petit peu aussi du fait que l'îlot Flessel, ce qu'on appelle l'îlot Flessel, c'est à la fois les bains-douches, le lavoir public, qui est maintenant une salle de théâtre et de concert, et puis la salle des ovalistes, qui est une salle municipale, et c'est une salle qui est louée très, très peu cher aux familles pour faire des fêtes, et qui est très utilisée. La crainte qu'on a, c'est qu'on ferme les bains douches, puis petit à petit, on récupère le bâtiment et on le vend. Donc, voilà.
D'accord. Et il propose quoi à la place ?
Alors, actuellement, il ne reste plus que 2 bains douches à Lyon. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, il y en a un par arrondissement. Donc, une fois que celui-ci sera fermé, Kepenekian vient de le dire, ils sont en train d'aménager des bains douches à Gerland. Mais aucune des personnes, des usagers qu'on a, avec lesquels on a discuté, se disent qu'ils vont aller à Gerland se doucher. Voilà. Nous, ça nous paraît fou que sur une ville comme Lyon, il n'y ait plus d'endroit pour se tenir propre, tout simplement. Hein. C'est vraiment une histoire de correction.
On verra en rouge, on verra tout rouge. Les routards, les étudiants, les routards, les étudiants. Eux aussi ont droit de citer, eux aussi ont droit de citer. Les étrangers, les étrangers.
Faut partir de notre identité.
Bain-douche, si vous vendez les bain-douches, nous verrons rouge, nous verrons tout rouge.
On ne vous laissera pas faire,
on ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire,
monsieur le maire,
monsieur le maire,
monsieur le maire, on se battra, on se battra,
on se battra.
Voilà, alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, lundi, il y avait encore un rassemblement des habitantes et des personnes qui soutenaient l'ouverture des bains-douches. Voilà, donc il y avait une 60aine de personnes qui étaient là pour lutter contre la fermeture qui a finalement eu lieu pour le moment. Mais la lutte continue parce que l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait quand même d'autres bains-douches accessibles, puisque là, effectivement, ça fait qu'un bain douche sur Gerland pour toute l'agglomération lyonnaise et les 60 communes qui sont autour également. Alors qu'à Paris, il y a 17 bains douches, donc on voit qu'il y a un vrai, vrai besoin de bains douches, puisque dans ceux de la Croix-Rousse, là, il y avait 9000 personnes par an qui les utilisaient. Donc voilà, on en reparlera dans l'agenda, mais du coup, il y a eu une pétition qui s'appelle « Touche pas à ma douche », qui avait recueilli plus de 1500 signatures, et il va y avoir encore une manifestation manifestation samedi pour demander le droit de pouvoir se laver pour les personnes en situation précaire.
Petit blanc, pardon. Et maintenant, c'est... Ah oui, c'est... on change de rubrique, c'est ça. Pardon, je suis un peu perdu.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Donc, rubrique nationale, et donc on va parler de l'affaire Al-Iziri. Donc, ce mardi 16 février, là, cette semaine, la Cour de cassation a décidé de valider le non-lieu pour les flics qui ont tué donc Al-Iziri. Alors, Al-Iziri, c'est un vieux bonhomme de 69 ans qui est décédé asphyxié le 11 juin 2009, quelques heures après son interpellation par la police nationale à Argenteuil lors d'un contrôle routier. Donc tabassé par trois policiers, il tombe dans le coma et finit par mourir deux jours plus tard à l'hôpital d'Argenteuil. Donc une première autopsie diligentée du corps a conclu à une mort par hypertrophie cardiaque. Donc en gros, ça veut dire que c'était une maladie qu'il avait. Mais en fait, suite à une pression citoyenne via les médias, une contre-expertise a révélé un mois après, donc le 17 juillet 2009, que les coups reçus par le sexagénaire ont été à l'origine de son décès. Des traces d'hématomes de 12 à 17 cm ont été relevées sur tout son corps. Donc un réquisitoire pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner a été délivré début octobre donc 2009 au juge d'instruction en charge de ce dossier. Mais en fait, malgré ces preuves, les policiers impliqués dans l'affaire n'ont pas été inquiétés. Donc ensuite, le 15 octobre 2012, la cour d'appel de Versailles donc entérine la décision du procureur de la République du tribunal de Pontoise qui avait requis un non-lieu. Et cela malgré du coup toutes les observations de la Commission nationale de déontologie et de sécurité qui évoque un traitement humiliant et dégradant et des expertises médico-légales qui relève l'existence de 27 hématomes. Donc malgré la succession de trois juges d'instruction sur cette affaire, ni les policiers mis en cause, ni les témoins n'ont été entendus par les juges. Donc malgré la demande de l'avocat de la famille, il n'y a eu ni reconstitution, ni visionnage de la vidéo montrant l'arrivée au commissariat donc des deux personnes qui sont Kerfali et Ziri. Parce que Al-Iziri n'était pas tout seul au moment de son interpellation. Donc, alors, ce premier non-lieu, en fait, a été cassé par la Cour de cassation à Paris le 18 février 2014. Donc, sur la base de la remise en cause complète du travail des juges. Donc, elle répète par quatre fois que la chambre d'instruction n'a pas légalement motivé sa décision. Donc, elle rappelle que l'enquête sur les causes d'un décès survenu au cours ou à la suite d'une interpellation ayant donné lieu à l'emploi de la force publique doit être méticuleuse, objective et impartiale. Donc, suite à ça, donc en février 2014, l'affaire est confiée à la cour de Rennes pour être réexaminée. Et malheureusement, en fait, le 12 décembre 2014, la Cour de Rennes va confirmer le non-lieu, donc qui avait été prononcé en octobre 2012. Donc, premier coup dur pour toutes les personnes qui luttaient pour la défense d'Alizieri. Donc, le chef d'instruction à l'époque a considéré, contre l'avis du parquet général de Rennes, qu'il n'y avait pas lieu à procéder aux actes complémentaires d'instruction donc demandés par l'un des avocats des parties civiles. Et donc le 16 février, la Cour de cassation a décidé de valider le non-lieu pour justement les flics dans cette affaire. Donc voilà. Pas le 16 février, 2014, je m'embrouille parce qu'en plus voilà. Bref. Alors, cette décision, qui a été en 2014 prise par la Cour de Rennes, ce mardi-là, donc le 16, a été validée. Et du coup, ce qui veut dire en fait concrètement, c'est que l'affaire est classée. Donc alors, cette décision est vraiment, c'est assez terrible pour les familles. C'est incompréhensible et injuste vu que la Cour de Rennes n'a pas répondu aux questions soulevées par la Cour de cassation, qui estimait que la chambre d'instruction n'avait pas légalement motivé sa décision et avait donc ordonné que l'affaire soit à nouveau jugée conformément à la loi. Donc du coup, ça n'a pas vraiment eu lieu. Et alors, pour rappel, cette décision de justice n'est pas la seule à susciter de la colère et de l'incompréhension. Hein, c'est malheureusement récemment une autre affaire de violence policière a été jugée aux assises de Bobigny. Donc, c'est un policier qui comparaissait pour avoir tué un jeune homme d'une balle dans le dos. Donc, il a été acquitté, alors même que ses collègues venus témoigner en sa faveur ont reconnu avoir menti sous serment lors de leur témoignage. Alors il faut savoir, pour le petit détail, qui n'est pas petit, que le président du tribunal dans cette affaire n'était autre que le juge Jean-Marc Heller, qui est le magistrat qui avait décrété le premier non-lieu dans l'affaire Alizieri. Donc dans l'affaire Alizieri, a priori, elle s'est terminée ce 16 février, donc c'est ce dernier et définitif non-lieu, qui a été donné donc, en période d'état d'urgence après 6 ans de procédure, donc qui est assez rude. Mais donc le collectif, donc il y a un collectif de soutien qui s'appelle Collectif Vérité et Justice pour Alizieri, ne va pas baisser les bras, va continuer de se battre pour que justice soit faite pour lui. Si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je peux vous conseiller d'aller visionner un film qui s'appelle « Qui a tué Alizieri ?». Donc, c'est un film donc fait par Luc Descasté qui a suivi pendant 5 années l'EPA des personnes qui ont lutté pour faire reconnaître cette mort, donc qui a été ignorée des médias. Comme un lynchage digne des pires périodes de l'histoire. Donc voilà, c'était pour vous parler de cette affaire qui est malheureusement pas très joyeuse par son dénouement, vu que la justice a décidé de ne pas de considérer que les flics n'avaient pas tort là-dedans. Donc voilà, les assassins restent impunis, une fois de plus.
Et on va vous parler maintenant de la future loi sur le travail ou l'enterrement des 35 heures.
Tout à fait. Alors, il y a un avant-projet de loi de la ministre sur la réforme du Code du travail qui remet complètement en cause les 35 heures et instaure un droit du travail à la carte, par entreprise et parfois même par salarié. Alors, on avait déjà la loi Macron, mais du coup, à nouveau, on nous prépare déjà, vu que ça marche bien de passer des lois qui détruisent tout le Code du travail, on continue dans la foulée, ne changeons rien. Donc c'est l'avant-projet de loi de El Khomri qui a fuité dans le Parisien mercredi, provoquant immédiatement une levée de boucliers. Et depuis, un autre texte qui circule, celui qui sera présenté devant le Conseil d'État, qui sera normalement très très proche du définitif. Donc là, pour la CGT, le gouvernement est hors la loi. Jusqu'à présent, tout le monde disait on ne touchera pas aux 35 heures, mais là, on va pas pouvoir continuer longtemps à répéter ça, étant donné ce projet de loi. Du coup, ce projet, il va être présenté le 9 mars prochain au Conseil des ministres. Et du coup, il annonce la durée maximale du temps de travail se décidera bien dans le périmètre de l'entreprise. Voilà, du coup, ça dépendra des entreprises. La durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures par simple accord d'entreprise. Alors, jusqu'à présent, il y avait quelques dérogations qui faisaient que c'était possible jusqu'à 12 heures. Mais c'était des dérogations quand même bien précises pour des conditions de dérogation bien précises. Et maintenant, l'intitulé pour ces dérogations est très très flou parce qu'on peut passer de 10 à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Bah, c'est-à-dire, grosso modo, pour n'importe quelle raison, c'est possible, quoi. Dans ce projet de loi, il y a aussi passé de 44 à 46 heures par semaine, c'est possible, sur 16 semaines, alors qu'avant, c'était sur 12 maximum. Voilà, donc ça va être quelque chose contre lequel on va pouvoir se battre. Et ce qui se passe aussi, c'est que avant même que le projet de loi sur la réforme du Code du travail ait été présenté au Conseil des ministres, Manuel Valls a parlé de l'article 49.3 qui sera un 49.3 préventif pour faire taire sa majorité. Grosso modo, en fait, l'article 49.3 de la Constitution permet d'adopter un texte par vote bloqué. Voilà, c'est de passer en force les décisions du gouvernement, quoi. C'est ça un peu l'idée que ça a été fait, en fait, cet article. Ils y ont eu recours lors du passage à la loi Macron aussi à l'Assemblée nationale. Voilà, donc pour le moment, bien sûr, ce projet de loi est rejeté par les syndicats et applaudi par le MEDEF. Et du coup, il instaure vraiment un droit du travail à la carte. Et donc voilà, il faut s'en méfier parce que ce sera donc d'abord le 9 mars au Conseil des ministres et ensuite ce sera débattu au Parlement. Voilà. Donc,
du coup, maintenant, tu vas nous passer des bonnes nouvelles du droit du travail au droit du...
Logement.
Ah oui, c'est ça. J'avais perdu le mot.
Alors, oui, pourquoi ? Parce que des bonnes nouvelles, il y en a. Il y a des manifestations qui payent. Alors, à Toulouse, en fait, il y a eu un gros mouvement des professionnels de l'urgence sociale et de personnes sans-abri qui étaient soutenues par des associations du logement. Donc, il y a 36 sans-abri qui ont décidé d'établir un campement. Du coup, ils sont installés à Toulouse sur une place pour demander à avoir accès à un toit, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Et donc, ça a commencé en fait le 11 février. Il y a eu une occupation de l'hôtel de région, dont l'ex-ministre du logement est vice-présidente, et il y avait 36 sans-abri. Il y avait aussi des grèves de travailleurs sociaux, notamment ceux qui gèrent le 115, le numéro d'appel pour les sans-abri. Du coup, pendant un mois, il y a eu des débrayages pendant 2 heures tous les jeudis. Du coup, ça a été ça et une cinquantaine de travailleurs sociaux qui sont mis à faire des débrayages comme ça. Et ça a payé puisque 820 000 euros ont été débloqués par le ministère du Logement pour l'hébergement d'urgence en Haute-Garonne. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de faire des luttes. Mais là, pour le moment, malgré cette enveloppe, la préfecture n'a pas été capable de s'engager à proposer une mise à l'abri en 15 jours pour les 36 personnes sans abri qui occupaient la place dont on parlait. Voilà, donc pour le moment, ces personnes, elles occupent encore la place. Voilà, il y a des personnes qui sont qui ont le statut de réfugié, donc qui sont migrantes. Donc là, à Toulouse, il y a un appel à venir les soutenir en apportant des couvertures, des tentes et tout ça. Et la mairie de Toulouse et la préfecture de région ont dit qu'ils n'envoyaient pas les flics, mais qu'ils avaient décidé de demander quand même une procédure en référé pour que l'occupation prenne fin. Mais ils le font de manière... ils passent par un juge, ce qui est assez fair-play de leur part, finalement. C'est rare quand même. Voilà, mais bon, voilà, donc des bonnes nouvelles pour ça. Et on peut rappeler quand même sur le thème des personnes sans abri que dans rue 89, il y a la création d'un site pour cartographier un peu les dispositifs anti-SDF qui sont à Lyon, dans le mobilier urbain et dans l'espace public.
Eh ben, merci pour ces nouvelles. On peut peut-être en profiter aussi pour dire aux gens qui peuvent aller jeter un œil à un autre mouvement autour du droit au logement et du squat à Toulouse qu'est la CREA. Et surtout parce que la CREA va organiser une semaine anti-répression et anti-violence policière avec plein de collectifs invités de France et de Navarre. Et ce sera en avril. Bien sûr, j'ai oublié les dates, mais ça se retrouve soit sur le site IATA, qui est le site d'information toulousain, qui est l'équivalent à Rébellion, soit donc sur Rébellion. Et maintenant quoi ? Eh ben, on va rester un petit peu sur le thème du logement et des habitats précaires en partant à Calais. Parce que qu'est-ce qui se passe à Calais ? On a appris plusieurs choses sur le site Passeur d'Hospitalité. Et, du coup, la première, donc c'était une info du vendredi 12, donc vendredi dernier, c'est que il y a eu une annonce par la préfète de Calais de la destruction du bidonville où vivent plusieurs centaines, plusieurs milliers même de migrants. Et que du coup, en fait, ça va encore entraîner une chasse aux migrants dans la ville par la violence. Et en gros, eux, ils dénoncent le fait que les migrants auront le choix entre être chassés et devoir fuir les forces de police ou accepter les solutions qui seront proposées par la ville. Et qu'est-ce que c'est, ces solutions ? Alors, par exemple, là, ils remontent, donc dans cet article du 12 février, ils remontent à ce qui s'est passé au mois de mars 2015 où... On a des petits soucis techniques, donc le 12. Ouh là là. Donc non, il remonte à ce qui s'est passé au mois de mars 2015, où les migrants en fait ont été concentrés sur un terrain à l'écart de la ville. Et donc là, en fait, il y a du coup un camp, un township, un bidonville qui s'est construit. Et puis, alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que là, la préfecture a décidé d'accueillir ces migrants. Donc comment la préfecture de Calais accueille ces migrants ? Bah, bien sûr, dans des containers, comme on fait avec les SDF dans beaucoup de villes. Et comment ça marche, les containers ? Bah, faut imaginer des containers, faut imaginer autour des grilles, faut imaginer entre les petits passages des grilles, des vigiles. Et puis, faut imaginer qu'on est à 12 pour 30 mètres carrés, que les gens, ils n'ont pas la possibilité de se laver, de cuisiner, de faire un thé ou un café dans ces containers. Et que quand on habite dans ces camps de la préfecture, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On peut entrer et sortir, mais sous le contrôle des gardiens et bien sûr d'un joli système de reconnaissance biométrique. Donc voilà, ils dénoncent cette catégorie d'enfermement un petit peu intermédiaire entre les centres de rétention administrative et le bidonville, donc un peu une deuxième catégorie d'enfermement.
Après, je crois qu'une des autres solutions aussi, c'est qu'ils ont trouvé pour faire partir tout le monde de la jungle, c'est de les proposer à tous les migrants d'aller dans plein d'autres villes et de les dispatcher partout en France. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont envie d'aller à Calais, donc ça les avance pas trop non plus.
Ouais, du coup, on est vraiment dans une gestion de flux où la majorité des gens qui sont à Calais, c'est pour passer au Royaume-Uni. Et là, on va aller leur proposer des solutions dans d'autres villes. Enfin, il y a même des choses qui se préparent jusqu'à Lyon sur le territoire lyonnais. Où des gens, enfin, il y a des préparations pour accueillir des gens qui seront passés d'un bout à l'autre de la France, on pourrait même dire déportés, pour ne pas utiliser des vilains mots. Et du coup, qu'est-ce qui se passe d'autre ? C'est qu'il y a une bataille des chiffres autour de tout ça, parce que forcément, la préfecture veut virer du monde et ils veulent faire penser que tout le monde sera relogé, puisqu'on fait ça pour l'humanitaire, parce qu'on aime bien les migrants et que c'est surtout pas de la gestion de flux humains et de l'expulsion gratuite. Et donc la bataille des chiffres que nous relaye une fois de plus passeur d'hospitalité, en fait, j'arrive pas. C'est qu'en fait, il y a des bénévoles français et britanniques qui sont au quotidien auprès des migrants, qui sont allés en fait dans les jungles pour compter le nombre de personnes qui y vivent. Et donc, au minimum, eux, ils comptent 3451 habitants pour la partie sud. Donc ça, c'est la partie sud qui est menacée d'expulsion. Et du coup... Qu'est-ce qui se passe ? C'est que il y a les contre-chiffres de la préfète de Calais. Donc au début, en septembre, elle disait qu'il y avait 6000 personnes dans cette partie sud. parce qu'il fallait montrer qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était un moment où Calais a été débordé. Et puis là, alors il a fallu montrer maintenant que les chiffres correspondent au travail de la préfecture et que le travail est efficace. Donc maintenant, on dit qu'il y a plus que 1000 habitants dans cette partie sud, et comme par hasard, et il y a 1000 places de relogement qui vont être fournies un peu partout en France. Donc voilà, c'est vraiment une bataille des chiffres pour aller justifier la politique. Et voilà, voilà ce qui se passe à Calais. Et passeurs d'hospitalité, cette fois-ci j'ai réussi, disent qu'au-delà de cette expulsion de la zone sud qui est prévue, il y aura aussi la partie nord du bidonville qui risque d'être expulsée. Et du coup, au tribunal administratif de Lille, qui a été saisi par des associations et des habitants du bidonville, pour un recours contre l'expulsion, il y aura un rendu d'audience ce mardi.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et on fait quoi maintenant ?
365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par l'être espiègle, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers, enrôlés tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui en appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libres, fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle, et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de leurs plans qui traumatisent nos esprits, non pas à vie mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations, critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce t'en sais, j'ai pas eu le choix de vivre comme un français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles, mais qu'est-ce que quelques années, environ 400. Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang.
Parole de descendants de couleur de calme.
Alors, on va vous parler de la France-Afrique à la sauce hollandaise. Hier soir, jeudi 18 février, le Premier ministre français Valls et son ministre de l'armée Le Drian ont atterri à Bamako, la capitale du Mali. Les deux hommes forts de la guerre sous la présidence Hollande, Valls et Le Drian, sont donc en visite en Afrique sahélienne, là où sont actuellement déployés 3500 militaires français sur une vaste région couvrant des territoires du Nord Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie ou encore du Burkina Faso. Aujourd'hui, vendredi 19, ils étaient à Gao, la plus grande ville du Nord Mali, où se tient une partie du commandement de l'opération Barkhane, c'est le nom de cette opération qui mobilise donc 3500 militaires, opération qui a remplacé les anciennes opérations Serviel et Épervier. Demain, Valls se rendra au Burkina Faso, où il sera reçu par le nouveau chef de l'État, Christian Kabore. Les capitales de Ouagadougou, donc du Burkina Faso, et de Bamako, du Mali, ont chacune été frappées par des attentats le 20 novembre, au Mali, une semaine après ceux de Paris, et le 15 janvier pour le Burkina Faso. Bilan de ces attaques, 50 morts, 20 pour le Mali, 30 pour le Burkina Faso. C'est donc sous le signe de l'antiterrorisme, son outil préféré qu'il manie si bien en France, vous savez, l'état d'urgence, etc. C'est donc au nom de l'antiterrorisme que Valls rend visite à ses homologues africains en cette fin de semaine. Valls a déjà rappelé à Paris que la guerre contre le mal doit être totale. C'est donc dans cette logique que s'entend ce déplacement. Mais il rappelle aussi que depuis l'arrivée de Hollande à l'Élysée, c'est l'armée, puisque Valls y va avec Le Drian, le ministre de la Défense, donc de la guerre, de l'armée, c'est l'armée donc qui a la main sur la diplomatie en ce qui concerne les affaires africaines. Hollande prétendait en finir avec les réseaux de la France-Afrique. Et certes, les réseaux se sont déplacés, ils n'ont plus la même forme, ils ont muté, ils se sont adaptés à la nouvelle donne. Alors quels ont été ces changements sous Sarkozy? Il n'y avait pas eu de grands changements par rapport à la vieille méthode focardienne de Jacques Focard sous De Gaulle, hein, qui avait un petit peu initié le néocolonialisme de post-décolonisation. Sous Sarkozy, donc, il y avait toujours ces hommes forts, Bourgis, Balkany ou Guéant, des espèces d'émissaires spéciaux qui n'avaient pas véritablement de titre officiel et qui étaient par ailleurs et surtout les organisateurs de cellules grises. Sous Hollande, au contraire, on a des interlocuteurs, deux conseillers de la cellule diplomatique, deux individus loin des réseaux traditionnels, ils n'ont pas le bras long, forcément long, ils ne sont pas réputés pour être implantés en Afrique depuis longtemps, et en plus ils ont des titres officiels, ils sont donc identifiés comme des interlocuteurs tout à fait honnêtes avec qui on peut parler des affaires africaines. C'est Bernard Houdin qui le dit. C'est, qui est ce Bernard Houdin? C'est un avocat, ancien conseiller de Gbagbo. Vous savez, l'ancien président ivoirien qui est aujourd'hui au tribunal de La Haye. Donc ce Bernard Houdin nous dit que penser que sous la présidence Hollande, les réseaux d'affaires plus ou moins légitimes ont disparu est naïf. Par définition, les réseaux s'adaptent. Aujourd'hui, il n'y a plus une tête, mais 50. Et alors, au-dessus de ces 50 têtes, les chefs de guerre Hollande et Le Drian, ministres de la Défense. Les deux, Hollande et Le Drian, avant d'arriver à leur responsabilité, l'un donc ministre de la Défense, l'autre président de la République, étaient des proches et ni l'un ni l'autre n'étaient spécialistes des affaires africaines comme la classe politique française aime en produire. Et tout tourne, tout change. Le 11 janvier 2013, badaboum, grand tournant, début de l'intervention de l'armée française au Mali contre Acmi. Et là, l'Afrique redevient, en tout cas officiellement dans les discours officiels, un enjeu cardinal de la politique étrangère française. En réalité, on sait bien qu'elle l'a toujours été. S'ensuit l'intervention de l'armée française en Centrafrique, puis... Plus récemment, on en a parlé au début de mon intervention, enfin je viens d'en parler, le déploiement de 3500 militaires dans le Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. L'action officielle de la France en Afrique passe donc d'abord par le prisme militaire. Et pas étonnant dès lors qu'on appelle communément dans les chancelleries le ministre de l'armée française, Le Drian, Monsieur Afrique. C'est davantage lui qui a eu en charge les dossiers africains que son ancien collègue des affaires étrangères, Laurent Fabius, qui parlait plus fréquemment des histoires liées à la Syrie, au nucléaire iranien ou encore plus récemment à la COP21. Concernant donc les dossiers africains, c'est plutôt le ministre de la Défense de la Guerre donc, qui s'en charge. Et dans la gestion de l'Afrique, ne place du coup plus vraiment par les diplomates. C'est ça la fin de la France-Afrique à la sauce hollandaise. Et pourtant, les réseaux affairistes, ceux qui permettent aux grandes multinationales françaises de s'assurer des contrats juteux sous les tropiques, n'ont pas disparu. Ils ont juste muté. Pas tous d'ailleurs, Bolloré ne s'en cache pas, pas trop hein, de faire des affaires en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple. On pourrait multiplier les exemples. On va simplement reprendre une partie de la très bonne enquête de Mediapart parue en janvier 2016. On vous en parle dans un instant. Mais avant ceci, on aimerait vous dire qu'on aime notre pays.
J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ.
aussi notre pays, comme Jean-Louis Borloo qui défend les intérêts de la France en Afrique, mais pas seulement, également les intérêts des pays africains. On pouvait donc découvrir ceci dans l'enquête dont je vous parlais il y a un instant, parue en janvier 2016 sur Mediapart, gros dossier sur la France-Afrique à l'heure de Hollande. Et donc on nous parle notamment de Borloo en odeur de sainteté avec le président Hollande et très proche des questions africaines. Il est en effet, notre Jean-Louis Borloo, ancien ministre de Sarkozy, président actuel d'une fondation appelée Énergie pour l'Afrique. Alors qu'est-ce que c'est que cette fondation ? Cette fondation entend faciliter l'électrification du continent africain. Et qui dit électrification, ce qui est dur à dire, dit gros sous derrière. Sa fondation fait partie de celles qui sont activement soutenues par le gouvernement, qui ont par exemple pu participer à la COP21 et qui permettent à Borloo, qui n'a pourtant lui pour le coup aucun titre officiel, de se faire prêter des avions par la République pour rencontrer des chefs d'État africains. Mais pas seulement, puisque il a d'ailleurs quasiment rencontré tous les chefs d'État africains, il y en a un petit peu plus de 50, et il y va pas seulement avec les frais de la princesse, pas seulement en se faisant financer par la République française, mais comme il aime s'en vanter, certains chefs d'État africains font preuve avec lui de largesse. C'était notamment le cas de Sassou Nguesso, l'autocrate du Congo. Voilà, alors derrière ces visites du philanthrope Borloo se rejoue la vieille mission civilisatrice de l'homme blanc. Alors là, c'est un petit homme blanc bouclé et tout jovial. Mission civilisatrice donc de cet homme blanc en Afrique qui entend, comme ses ancêtres pionniers qui, eux, avaient planté le drapeau national en terre sauvage, civiliser ceux qui n'y arrivent pas. Sauf qu'aujourd'hui, on dit plus facilement « aide au développement ». Dans les couloirs de la COP21, Jean-Marie Borloo, c'était lui qui courait entre Hollande et les différents chefs d'État africains, glissant petites attentions à l'oreille des uns et des autres. Et c'est ça aussi aujourd'hui la France-Afrique. Et dans les gros poissons de la France-Afrique, il y a un cas encore plus intéressant. Est-ce que j'ai le temps d'en parler ? Rapidement, je fais rapidement. Il s'appelle Lionel Zinzou. Et Lionel Zinzou, il est très intéressant parce qu'en plus d'être un économiste né à Paris, c'est un franco-béninois. Mais ce binational n'est pas de ceux qui risquent de perdre leur nationalité. Puisque, puisque Lionel Zinzou, lui, a le bras très très long. Cet ancien banquier d'affaires, qui est également un très proche ami de Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères, enfin, qui a quitté ce poste il y a une semaine. C'est jusqu'à ces derniers temps, il a pu profiter aussi des largesses de Laurent Fabius. Donc ce Lionel Zinzou animait, il n'y a pas longtemps encore, un projet qu'il appelait Africa-France, une espèce d'inversion des mots. Au lieu de dire France-Afrique, ça s'appelait Africa-France. Ce n'est pas une blague, ne rigolez pas. Et
tu maîtrises le verlan.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc, il était bien épaulé par le ministre des Affaires étrangères et son projet avait pour but de faciliter les relations économiques entre la France et l'Afrique. Bref, rien de nouveau, la France-Afrique, quoi. Et puis, en juin dernier, patatras, c'est la deuxième fois, gros patatras, et là, il est devenu d'un coup comme ça premier ministre du Bénin. Quand même fort le mec, super fort. Et un petit peu après, ses prétentions ont grandi et donc depuis la fin de l'année dernière, il s'est déclaré candidat aux prochaines élections présidentielles du Bénin qui auront lieu le 6 mars prochain. Et justement, Lionel Zinzou a commencé hier sa campagne électorale et il a choisi comme première date et lieu de campagne, plutôt premier lieu de campagne, Paris. Il est venu avec son avion à Paris. Il était hier en tête à tête avec François Hollande et son équipe de campagne avait loué une grande salle à Paris, la salle de la Mutualité, où il a fait son premier meeting de campagne à Paris, à la salle de la Mutualité, après avoir rencontré François Hollande. Donc, et aujourd'hui, il rencontrait des éminences, des personnalités du monde politique, affairiste, français et européen. Et puis demain, il sera quand même à Cotonou pour commencer sa campagne africaine. Voilà. Bilan donc de la France-Afrique à la sauce hollandaise, miam miam. Donc pour que rien ne change, c'est le vieux dicton, il faut que tout change, en tout cas en vitrine. Pour le reste, la diplomatie opaque façon Focard. Focard, c'était l'agent france-africain de De Gaulle et puis de ses successeurs. Donc la façon Focard avec les réseaux Chirac-O, Golo, Sarkozyste a été remplacée par tout simplement le commandement militaire. Et entre état d'urgence, gouvernance par l'antiterrorisme, guerre contre-insurrectionnelle en métropole et à l'étranger, par exemple au Sahel, notre période a vraiment un petit goût de la France de la fin de la 4ème République, celle de la guerre d'Algérie. Voilà, voilà. Et on va vous parler maintenant de toute autre chose. On va vous parler du, enfin quoi que c'est un peu lié aussi, du durcissement des frontières européennes.
Et oui, parce que pendant que nos chefs européens se réunissent et n'arrivent pas à trouver une solution pour les migrants, nous on va faire un petit tour aux frontières de l'Europe entre Italie, Grèce et Bulgarie pour voir un peu les grandes nouveautés de cette année pour empêcher les migrants d'arriver en Europe ou au moins d'arriver dans les États centraux de l'Europe, s'arrêter aux frontières. Donc on va parler de hotspots parce qu'en Grèce, le ministre de la Défense a annoncé mardi que la Grèce allait ouvrir 5 nouveaux hotspots, 4 desquels ils vont être opérationnels dans les prochains 5 jours. Alors, on va faire un petit point sur ce que c'est un hotspot en anglais. Alors, c'est des centres d'enregistrement et de sélection des migrants qui peuvent normalement accueillir et soigner 1000 personnes pendant 3 jours. Ils sont prévus donc pour un accueil très court et ils ont comme mission principale l'identification des migrants, leur tri entre ceux qui fuient des zones de guerre et qui peuvent légitimement bénéficier d'une protection internationale et les soi-disant migrants économiques qui seront par la suite incités à rentrer chez eux, bien évidemment. Et en même temps, dans ces hotspots, le but, c'est de prendre les empreintes digitales de tous les migrants pour pouvoir les ficher dans Eurodac, ce système mis en place avec le règlement de Dublin qui prévoit que chaque demandeur d'asile puisse demander l'asile dans le premier pays où il a été fiché. Donc, en gros, ils ont un peu vu que ce n'était pas très pratique parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient aller en Allemagne, en Scandinavie et ils se retrouvaient en Grèce. Donc l'Union européenne a décidé que les États européens allaient se répartir les migrants selon la mesure des démographies des États membres. Donc tout ça, ça se passe dans les hotspots où les migrants laissent leur empreinte, ils déclarent ce qu'ils veulent faire et ils sont par la suite envoyés en Europe où ils restent dans leur pays, où ils sont renvoyés chez eux. Tout ça en théorie. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? C'est qu'en fait, en Grèce, il y a des arrivées assez importantes des migrants. Et l'Union européenne a déploré ces derniers mois les retards pris par la Grèce dans l'ouverture de ses centres, menaçant le pays des sanctions financières. Parce que la Grèce, avec la crise économique et son manque de structure et d'hommes pour encadrer les flux migratoires, et même malgré l'aide de Frontex qui envoie régulièrement des hommes, elle n'est pas à la hauteur des attentes de l'Union européenne dans la gestion des flux migratoires. Donc dans les prochaines semaines, très rapidement, il y a 4 hotspots qui vont être ouverts dans les îles de Lesbos, Chios, Leros et Samos, et bientôt à Kos, où en fait il y a quelques soucis parce que les habitants ils sont pas très d'accord parce que l'ouverture d'un hotspot menace l'industrie touristique locale. Donc ça serait un peu embêtant. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe en Grèce aussi? Un peu en cachette, Athènes a donné mercredi son accord à une initiative allemande pour le déploiement en mer Égée entre les côtes grecques et turques d'une mission navale de l'OTAN chargée d'aider à tarir les départs de Turquie et de renforcer la lutte contre le trafic des migrants. Bon, tout cela se passait en Grèce, mais on a encore envie de savoir un peu ce qui se passe vraiment dans ces hotspots. Et donc, on va aller en Italie, où en fait, tout récemment, une commission pour les droits de l'homme du Sénat italien a fait un rapport sur le fonctionnement de ces centres. Et en Italie, il y en a 3 qui sont ouverts depuis 5 mois, à Lampedusa et dans 2 autres villes siciliennes. Et cette commission est allée voir un peu ce qui se passe et ils ont un peu dénoncé le fait que ça ne marche pas très très bien. Donc, on va essayer de vous raconter rapidement ce qui se passe. Donc, on va parler du hotspot de Lampedusa. En particulier, il y a 350 places. Donc, les migrants, ils arrivent. Déjà, ils sont soumis à un examen médical tout de suite, ce qui nous donne un peu des images d'autres temps, mais bon. Et après, tout de suite, il y a un petit questionnaire qui leur est soumis. Alors, c'est un questionnaire qui... d'où il va dépendre la suite de leur parcours, parce qu'en fait c'est un questionnaire qui vise à identifier les raisons de leur départ de leur pays et donc de les mettre dans des petites catégories. Catégorie 1, s'ils viennent d'un pays où il est raisonnable de penser qu'il y a une situation pour laquelle il pourrait bénéficier du statut de réfugié, comme Syrie, Érythrée, Irak, Afghanistan et Centrafrique. Et catégorie 2, s'ils viennent en Italie pour travailler, pour retrouver la famille, pour fuir la pauvreté ou autre. Donc tout ça, c'est catégorie 2. Et ce questionnaire est rempli à l'aide des médiateurs qui parlent 4 langues, grand max. Et juste après l'arrivée des migrants qui souvent ont fait des longs voyages dans la mer et qui sont un peu sous le choc et qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc une case mal cochée, ça fait que voilà, on a un arrêté de refoulement. Même si on est déjà en Italie, on est refoulé comme si on n'était pas rentré en Italie. Et on est soit renvoyé chez eux, soit plus probablement envoyé au centre de rétention administrative, ou soit abandonné un peu à la campagne à côté d'une gare en attendant que les gens y rentrent tout seuls. Et pour les personnes qui ont la chance de venir des pays où tout le monde reconnaît que c'est vraiment la merde, bon, du coup, ils peuvent être peut-être... envoyé dans d'autres pays européens ou en Italie et attendre une réponse pour leur demande d'asile. Donc, en théorie, ces endroits, ils sont prévus pour accueillir pendant 3 jours les migrants. Et en fait, ce qui se passe en Italie, c'est que les gens, ils y restent au moins 30 jours, voire beaucoup plus. Il y a, au moment de la visite de la commission, il y avait 135 mineurs qui étaient un peu laissés à eux-mêmes. Il n'y avait rien qui était mis en place pour eux. Il y avait des conditions d'hygiène plus ou moins à peine dignes. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça ne sent pas très bon. Et en petit bilan, en fait, seulement 279 des 4597 personnes arrivées à Lampedusa depuis le 1er septembre 2015 ont pu quitter l'Italie pour demander asile ailleurs. Et il y en a une centaine qui sont en procédure en Italie, c'est-à-dire que ce que la commission dénonce, c'est que tout ce système, en gros, a l'effet de créer un 90% d'étrangers qui sont laissés qui sont abandonnés un peu sur les territoires, sans le droit d'y rester. Donc, un système qui augmente énormément les migrants qui n'ont pas le droit de rester sur les territoires et qui seront probablement exploités économiquement par la suite par nos chers entrepreneurs. Et peut-être qu'il est un peu trop tard pour partir en Bulgarie, venir un autre jour. Et on va passer à l'agenda.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Génial ce jingle, génial.
Ah là là, l'inauguration de ce nouveau jingle va pas nous aider à être concis parce qu'on est trop heureux de ce beau jingle. Et on commence du coup par demain. Pourquoi demain? Parce qu'on vous a parlé des bains-douches en début d'émission, et bien figurez-vous quoi? Demain nous sommes samedi 20 janvier et départ à 15h d'une manif place Delcourt en direction des terreaux pour lutter contre la fermeture des bains-douches. Et aussi demain, après cette belle marche ensoleillée, oui, parce qu'il fera soleil, et oui, parce qu'à Canu Info, on fait un peu de météo de temps en temps, et vous pourrez aller à Saint-Germain-au-Mont-d'Or pour voir un documentaire sur Sivens. Donc ça, c'est à la salle Georges Brassens, 6 chemins de la maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Et alors, après avoir fait la récup du marché le dimanche, le lundi, ça va être le jour des migrants, un peu comme chaque semaine. Et du coup, vous aurez le choix entre soit aller à Guillotière pour la permanence juridique de soutien aux sans-papiers, pour recueillir moult informations sur les diverses situations envers lesquelles vous pouvez être confronté, ou alors vous pouvez vous rendre sur la Croix-Rousse pour avoir soit un cours de langue et aussi pour participer à la collecte permanente, soit de vêtements ou de diverses affaires que vous pouvez donner du coup à la coordination des groupes anarchistes de Lyon à la Plume Noire.
Et oui, et le Grand Capital nous a mis dans la tête le mardi, c'est ravioli. Sortez-vous tout de suite ça de la tête, parce que le mardi, c'est quoi maintenant le mardi? C'est la cantine de l'Hôtel California, bien sûr, avec une seconde salle. Donc, alors au menu, il paraît qu'il y aura du houmous, des lasagnes, du riz pilaf, de la soupe de poulet, du gâteau aux noix, etc., etc., etc. C'est au 69 avenue Jean Mermoz, non, Mermoz-Pinel, pardon. C'est pas du tout. Je viens de mélanger un aviateur et un aliéniste. Bon, du coup, 69 avenue Mermoz-Pinel dans le 8e. Et au même moment, il y aura la présentation de la brochure L'auto-école buissonnière. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un projet en fait qui a consisté à monter une auto-école autogérée, autofinancée, alternative et do-it-yourself. Et donc, ça, c'est mardi à 20h30 à la Lutine, 91 rue Montesquieu. Et si vous ne pouvez pas y être et que ce projet vous motive, vous pouvez bien sûr retrouver la brochure sur rebellion.info.
Et si jamais vous préférez faire du vélo et que vous êtes en jeune, ce qui est complètement votre droit, vous pouvez quand même faire de la politique et vous rendre du coup à la soirée ciné-débat sur le travail au Zola à Villeurbanne, aussi mardi 23 février 2016 du coup, à 20h30. Du coup, c'est une soirée sur la projection d'un film qui s'appelle « C'est quoi le travail ?», qui va être suivi d'un débat en présence du réalisateur Luc Joule. Alors du coup, c'est un film assez intéressant qui re-questionne notre rapport au travail, de pourquoi est-ce qu'on y passe autant de temps, pourquoi est-ce qu'on y passe autant d'énergie, comment est-ce que ça peut rythmer notre vie et rythmer nos choix de parcours. Vous pouvez du coup vous rendre au cinéma Le Zola, qui va pratiquer ses tarifs habituels. Ça veut dire 6,70 € ou alors en réduit 5,70 €. Et si vous êtes un enfant de moins de 14 ans, 4,70 €. Et l'adresse du Zola, si vous ne savez pas, c'est vraiment juste à côté du métro Charpennes. Et vous, c'est exactement au 117 cours Émile Zola, 6900 Villeurbanne, à 20h30. Et du coup, à la semaine prochaine ou à bientôt.
Voilà, bonne soirée sur Radio Canu. Vous avez fait le choix de n'écouter ni De Morand ni François Hollande. Écoutez Radio Canu. Et maintenant, c'est l'heure de
Noise Pollution.